L'UMP affirme que le gouvernement a entendu les revendications des grévistes. Les courses à Enghien avec à l'instant la combinaison gagnante du Quintet Plus. Pour gagner, il fallait jouer le 10, le 12, le 7, le 2 et le 6. 10, 12, 7, 2 et 6. On part tout de suite à la Bourse de Paris.
La Bourse avec Union Financière de France. Banque Conseil en création et gestion de patrimoine.
Et Antoine Verlin pour une Bourse de Paris qui est en hausse.
Eh oui, Claire, toujours soutenue par la hausse du dollar, une stabilisation des cours du pétrole et de nombreuses spéculations sur d'éventuels rapprochements dans différents secteurs. Eh bien, le marché parisien entame le mois d'octobre avec en train. Le CAC 40 est en hausse de 0,56%. Il est à 4625 points dans un volume d'affaires d'1,4 milliard d'euros négocié. Sur le marché des devises, donc, le billet vert se ressaisit sensiblement. Aux dernières transactions interbancaires, l'euro perd 0,91%. Il revient à 1,1932. Du coup, sur les marchés de l'or, eh bien, au premier fixing, à Londres, l'once plonge carrément de 8,25 à 425. Voilà, je vous rappelle qu'à Paris, le CAC 40 est en belle hausse de 0,56% à 4625 points. C'est Antoine Verlin, la Bourse de Paris pour France Inter.
Retrouvez toute l'actualité boursière, des informations sur les valeurs, les marchés et les sociétés, ou bien consultez votre sélection par téléphone sur le 3230, 34 centimes d'euros la minute. 3230, France Inter au bout du fil.
14h03 sur France Inter, comme promis, 2000 ans d'histoire. Patrice Gélinet, bonjour.
Bonjour Claire et bonjour à tous. Aujourd'hui, jour de la sortie de prison du plus ancien détenu de France, l'affaire pour laquelle il avait été condamné à la prison à vie en 1966, l'affaire Lucien Léger.
Lucien Léger est libre depuis cette nuit. Le plus ancien détenu de France est sorti de la prison de Douai en catimini. Il habitera à Londa dans le Nord, un village qui ne voit pas d'un très bon œil l'arrivée de celui qui est surnommé l'étrangleur.
D'histoire. Il y a quelques heures, le plus ancien détenu de France sortait libre de la prison de Douai après avoir passé 41 ans derrière les barreaux. Le temps pour Lucien Léger de voir se succéder 5 présidents de la République, de se voir refuser 13 demandes de libération conditionnelle et de continuer à nier sa responsabilité dans un crime, le meurtre d'un enfant de 11 ans, dont le cadavre a été découvert dans la région parisienne le 27 mai 1964. C'était le début d'une affaire qui allait bouleverser les Français et les tenir en haleine pendant près de 2 mois. France Inter, Inter Actualité, Jean Lacour, le 27 mai 1964.
On a découvert ce matin dans les bois de Verrières, en Seine-et-Oise, le corps d'un petit garçon âgé d'environ 11 ans.
Il s'agit peut-être là d'un crime. Des traces de strangulation ont été relevées. Mais notre reporter Alain Barraud est sur place et je lui demande des précisions.
Monsieur Pavillon, vous êtes le commissaire principal, chef de la circonscription de Palaiseau. Ce matin, à 6h, on a découvert dans les bois de Verrières le cadavre d'un jeune garçon de 11 ans. Comment ça s'est passé?
Eh bien, c'est un promeneur qui faisait son footing matinal dans ce bois, qui a découvert le cadavre. Il était environ 5h30.
On a pu l'identifier?
Non, pas encore.
Et ce cadavre, c'était celui du petit Luc Taron, découvert dans la forêt de Verrières le 27 mai 1964, il y a plus de 41 ans. Jean-Pierre Van Geert, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste, spécialiste des affaires criminelles, et vous connaissez bien celle dont nous allons parler aujourd'hui, le meurtre de Luc Taron, qui a valu à Lucien Léger 41 ans de détention. On en parle beaucoup aujourd'hui alors qu'il sort de prison, mais on oublie parfois ce qui avait conduit justement Lucien Léger en prison et ce contexte dans lequel il avait été condamné, parce que il y a 41 ans, cette affaire a bouleversé les Français.
Ah oui, la France entière a été bouleversée, les parents d'enfants comme moi à l'époque ont été bouleversés, nous ont mis en garde.
Vous aviez 9 ans.
Oui, et donc il fallait absolument que l'on fasse attention, d'autant que la suite des événements d'une façon très rapide, c'est-à-dire que le petit Luc Taron a été découvert le 27 au matin, et le 27 au soir, Lucien Léger laissait une première lettre anonyme devant
et ça a duré
station.
Deux mois
et ça a duré deux mois d'angoisse,
cette angoisse qui
que les parents avaient et que la population ressentait parce que ils craignaient pour leurs enfants.
Alors, il faut rappeler les faits, cet enfant donc avait disparu la veille, on le découvre le 27 mai au matin à 6h à 5h30 du matin, on l'a entendu et il avait disparu la veille. Alors les parents n'ont pas ne se sont pas trop inquiétés, en tout cas ils n'ont pas signaler la disparition de l'enfant, parce qu'il avait déjà fait des fugues, je crois.
Oui, c'était un enfant fugueur, parce que ses parents étaient assez, par ancienne méthode, ils étaient
sévères,
comme on les moins aujourd'hui. Et donc, le petit Luc avait l'habitude de partir avec une bande dessinée sous le bras, et de se balader le nez au vent dans Paris. De prendre le métro et son chemin ce jour-là malheureusement a croisé celui de Lucien Léger.
Alors on le sait d'autant plus ce qui s'est passé que vous le disiez, le soir même, le 27 mai, le soir où l'on découvre le corps, on ignore d'abord quel est le nom de l'enfant, et puis comme le père a signalé le matin que son fils avait disparu, tout de suite on fait le lien, donc on sait que c'est Luc Taron, mais on ne sait pas du tout qui est le meurtrier. Mais le 27 mai au soir, le jour même, eh bien, une lettre anonyme raconte ce qui s'est passé à Europe numéro 1, je crois.
Oui, oui, c'est cela. Donc, et cette lettre est d'une...
signée l'étrangleur, hein.
Oui. Pas encore, non. Il signe l'étrangleur trois ou quatre lettres plus tard. Mais la première lettre, il dit dans cette lettre, « Affaire du bois de Verrières. Après avoir demandé une rançon qu'il m'a refusée au père du petit Luc, j'ai emmené celui-ci à Palaiseau. Je l'ai étranglé à 3h du matin. » C'est un avertissement pour le prochain rapt, la rançon ou la mort.
Et on sait que c'est pas du tout la lettre d'un mystificateur, puisqu'il donne des détails que seul lui-même, la police et les parents du petit Luc connaissent, puisqu'il donne, il donne dans le détail les vêtements qu'il portait. Il parle même d'une marque de mercurochrome sur le genou de Luc Taron. Donc on sait bien qu'il y a un lien entre celui qui écrit la lettre et le coupable. Et puis alors.
Et de la bande dessinée d'ailleurs qu'il avait.
Et puis
avec
c'est,
lui.
C'est assez odieux, parce qu'il semble faire du père le responsable, parce qu'il aurait refusé une rançon qui n'a jamais été demandée d'ailleurs.
Absolument.
Alors, c'est la première des 56 lettres qui, pendant 40 jours, seront envoyées par l'étrangleur, comme il s'appelle, à la police, et cela aux parents de Luc Taron, à tous les journaux et les radios de France, France Inter, Jean Lacour, le 17 juin 64.
Jacques Chabot, il nous faut retrouver encore une fois l'affaire Taron. On en est toujours à la lettre hallucinante que l'étrangleur a envoyée à M. Taron. Vous l'avez probablement tous lu. Elle a fait les gros titres de la presse. L'étrangleur doit être satisfait, lui qui veut de la publicité.
Oui, c'est ce qu'il disait dans une de ses dernières lettres. Ne cessez pas de parler de moi, sinon il y aura un nouveau cadavre et je ne reculerai pas. On l'a d'ailleurs déjà remarqué, chaque fois que l'étrangleur n'est plus à la une, comme nous le disons, il s'est empressé de faire rebondir l'affaire, et cela suivant les meilleures règles du journalisme à sensation. Cela dit, il y a à côté de ce garçon intelligent et cultivé, un pervers délirant qui tout d'un coup fait d'étonnantes déclarations. Je suis de cette graine qui pousse dans le printemps des monstres, etc., etc.
Extraordinaire ces lettres, Jean-Pierre Van Gert, à l'évidence un homme qui cherche la publicité.
Ah, définitivement, c'est-à-dire il a un besoin d'être reconnu. C'est-à-dire que Lucien Léger a été un enfant aussi, vraisemblablement qu'il a été... méprisé par ses petits camarades. Ensuite, dans son début de vie d'adulte, même chose, méprisé, un monsieur personne. Et donc...
Et brusquement, il devient quelqu'un.
Il veut devenir quelqu'un. Il veut absolument devenir quelqu'un.
Mais avec des lettres dont on peut comprendre à quel point ils ont bouleversé les Français. D'abord, il accable le père de Luc Taron. Il va défier Scotland Yard. Il s'accuse d'autres meurtres,
oui,
en
oui,
plus.
Absolument.
Et puis alors, là vraiment, c'est là où quand même il y a un cynisme assez extraordinaire. Il écrit même au père de Luc Taron une lettre dans laquelle il dit qu'il a assisté aux obsèques de son fils qui était enterré quelques jours après le meurtre. Il dit, les obsèques, il écrit, les obsèques étaient parfaites, j'étais heureux d'y assister comme j'assisterai aux suivantes si la rançon n'est pas payée à temps. C'est épouvantable.
Oui, c'est vraiment épouvantable, et c'est peut-être ce côté dingue, comme on dirait aujourd'hui, qui, sans présumer de l'issue, lui a évité la peine de mort qui existait à l'époque.
Oui, parce que à l'époque, d'abord, quand ces lettres arrivent, on ne sait toujours pas. On ne sait pas pendant 40 jours qui a pu les écrire, ces lettres.
Et pendant 40 jours, la presse, faut le dire également, non pas s'en donne à cœur joie, mais relaie l'information. Il donne des lettres à l'AFP, etc. Ouais. Et puis, les lettres qui étaient envoyées sous forme de pneumatique également, puisque il n'y avait pas nos systèmes d'aujourd'hui, étaient signées d'abord XXX, et puis c'est lui qui s'est baptisé l'étrangleur, c'est pas la presse. Hein.
Alors il a un culot quand même, c'est assez invraisemblable, parce que comme on n'arrive toujours pas à mettre la main sur l'étrangleur, un jour il va carrément dans un commissariat de police, sous son nom, Lucien Léger, et il dit, ben voilà, on m'a volé ma deux chevaux.
Oui, c'est il trouve le temps, il trouve effectivement le temps long, et il a préparé cette affaire, puisque il va dans ce commissariat de police sous son nom, il dit qu'on lui a volé sa deux chevaux, et d'une façon surprenante, le lendemain,
il dit qu'on l'a retrouvé. Il l'a retrouvé.
Il dit qu'il l'a retrouvé et qu'il a reçu encore une lettre. De l'étrangleur.
Oui, c'est-à-dire que l'étrangleur, c'est-à-dire lui-même, l'étrangleur envoie une lettre en disant « C'est moi, alors signé toujours l'étrangleur, c'est moi qui ai volé la voiture de monsieur Lucien Léger. » Alors, c'est une lettre, évidemment, qui va pousser la brigade criminelle à trouver ça un peu curieux, à perquisitionner dans la chambre d'hôtel de Lucien Léger, où elle va trouver suffisamment d'indices pour comprendre que Lucien Léger et l'étrangleur, eh bien, ce sont une seule et même personne. France Inter, le 5 juillet 1964, 39 jours après le meurtre de Luc Taron.
Eh bien, ça y est. L'étrangleur est sous les verrous. Cet homme qui, pendant 38 jours, a nargué la police, tenu en haleine l'opinion, défié la presse, a avoué ce matin son crime. Le rôle de la police est terminé et Lucien Léger, tel est son nom, infirmier stagiaire à l'hôpital psychiatrique de Villejuif, va être transféré à Versailles où le juge Seligman instruit l'affaire.
C'est dans une ronde noire que Lucien Léger est conduit au palais de justice. La foule se précipite sur la voiture et semble vouloir rendre par elle-même justice à ce meurtrier. Tous en ce moment submergés par la foule. Les policiers sont obligés de le protéger. Il se fait taper dessus par tous les gens qui se trouvent sur les abords du palais de justice.
Mais tuez-le ! Pourquoi ? C'est un assassin de gosse !
Et c'était l'arrivée de Lucien Léger au palais de justice il y a 41 ans avec, on voit vraiment, une foule déchaînée, Jean-Pierre Van Guerre.
Oui, mais là, on peut comprendre, je crois, l'émotion qui transpire à travers la violence qu'on entend dans ce reportage. Parce qu'effectivement, cet homme a baladé tous les parents de France pendant presque 40 jours, il les a nargués. C'est tout à fait normal. Ceux qui montrent leur colère et leur tristesse, bon, sont les interprètes de tous.
Oui, parce que d'autant plus que sur les photos de l'époque, quand même, il a beau être pratiquement brutalisé devant le palais de justice, les photos qu'on voit, c'est un homme souriant devant les policiers qui l'interrogent aussi.
Ah oui, oui, moi j'avais eu l'occasion de rencontrer des policiers qui l'avaient interrogé, et c'est un homme tout à fait détendu. En fait, quelque part, on dirait qu'il est satisfait. Parce que enfin, il a été arrêté. Il a dû se douter quelque part que il pouvait pas faire durer trop longtemps ce suspense. Il est arrêté et il peut pavaner. Il y a une raison d'avoir sa photo en première page. Il est reconnu et quand on le voit sur une photo, Lucien Léger de l'époque, c'est un petit être chétif sur qui personne ne se retournerait.
Il faut rappeler peut-être le passé de cet homme, d'abord qui travaillait dans un hôpital psychiatrique, qui a fait des petits boulots. Oui. C'est une vie assez malheureuse aussi, oui, un mariage assez triste avec une pupille de la nation qui a été envoyé dans un asile psychiatrique. C'est assez pathétique. C'est vraiment un peu le paumé, le raté qui traîne dans les rues de Paris.
On se demande justement si cette vie de Lucien Léger n'est pas une des façons dont qu'il a eu d'aborder le petit Luc Taron qui était aussi paumé. Mmh. Donc c'est une rencontre de deux paumés. Peut-être on n'y était pas. Hein. Personne peut dire ce qui s'est passé pendant les quelques heures où ils ont été, qu'ils ont passé ensemble. Vraisemblablement qu'ils ont discuté de leur malheur, se souvenant l'un de son enfance et l'autre lui racontant la sienne.
Il faut rappeler, je fais une parenthèse, qu'il ne s'agit absolument pas d'un crime pédophile. Hein.
Non,
il
n'y
a pas eu de violence
pas,
sexuelle du tout.
Rien
oui.
du tout, rien du tout. Et les métros fermaient, vous vous en souvenez, à 1h du matin, c'était la dernière rame, gratuite d'ailleurs à l'époque. Et de là, Léger emmène le petit Taron en voiture vers sa destination finale. Que se passe-t-il dans sa tête ? Je l'ignore, je peux simplement émettre une supposition, c'est qu'il s'est rendu compte peut-être qu'il avait été un peu trop loin avec cet enfant, qu'il ne pouvait pas le ramener chez lui parce qu'il y aurait une description et il y aurait enlèvement ou tentative d'enlèvement. Et donc, arrive ce qui arrive, cette mort atroce à 3h du matin.
Alors, on le saura d'autant moins ce qui s'est passé, Jean-Pierre Van Geert, que après avoir reconnu d'être l'auteur de ces lettres signées l'étrangleur, il a même reconnu donc le meurtre de cet enfant. Et puis, ensuite, il s'est rétracté, je crois, à partir de juin 1965. Il fait machine arrière. Il trouve une histoire qui permettrait de le disculper. C'est en tout cas la position qu'il va tenir au mois de juin 65, à partir du mois de juin 65 jusqu'à l'ouverture de son procès, France Inter, Jean-Pierre Elkabbach, le 3 mai 1966.
Le procès de Lucien Léger, l'étrangleur accusé d'avoir assassiné il y a 2 ans dans le bois de Verrières le petit Luc Taron, 11 ans, s'est ouvert devant les assises de Versailles. Parmi les grands de la presse judiciaire internationale, Frédéric Potcher, bien sûr, pour Interactualité.
Vers 17h15, tout à l'heure, alors que l'audience durait déjà depuis plus de 2 heures, le président a demandé à Léger. Léger, est-ce que vous vous reconnaissez l'auteur du crime ? Léger, mais non, pas du tout, monsieur le président. Vous avez déclaré être l'auteur du crime. Pendant 11 mois, vous l'avez dit. C'est en juin 1965 seulement, le 11 exactement, que tout à coup, vous faites intervenir cet homme inconnu que vous appelez Henri. Léger, oui, c'est exact, le président. Si vous voulez que l'on vous croie, Léger, il faut que vous nous disiez qui est cet Henri. Eh bien voilà, monsieur le président. Le 27 mai 1964... Vers 8h du matin, Henri m'a appelé au téléphone à mon hôtel. Il m'a dit qu'il avait commis un assassinat. Mon ami, enfin Henri, m'a dit qu'il n'avait pas fait exprès d'étrangler l'enfant. Seulement voilà, l'enfant s'est mis à crier. Alors, en voulant le faire taire, eh bien mon ami a étouffé Luc. J'ai vu Henri. Il m'a remis une lettre qui comportait tous les détails. Et il m'a dit, tu vas raconter tout ça à ma place. Petit à petit, inconsciemment, par jeu, je ne sais pas, j'ai écrit que c'était moi.
Et c'est une voix qu'on connaît bien sur cette antenne, Frédéric Potcher, commentant ce procès auquel il a assisté, et cette défense de Lucien Léger, évoquant un certain Henri qui n'existe pas, en fait. Jean-Pierre Van Geert, il disait, il appartient à la DST, on a cherché, il n'y avait personne.
Oui, non, il n'y avait absolument personne. Comme pour revenir un tout petit peu en arrière dans la Deux Chevaux, il avait dit que la voiture avait servi à transporter le corps d'un truand, quoi. Mmh. C'est bon. Mais il ne faut pas oublier aussi qu'il dit aux flics, aux policiers, pardonnez-moi, qu'il reconnaît avoir signé ces lettres de l'étrangleur, mais en disant j'ai créé ce personnage odieux, mais c'était pour moi un simple personnage de roman. Mmh. Alors est-ce que Léger a vécu tout cela comme un roman, je ne sais pas.
En tout cas, il est défendu par quelques ténors du barreau de Paris, oui. Maurice Garçon, puis Maurice Garçon qui arrête pardon de le défendre parce que justement il revient sur sa sur ce sur, enfin il annonce qu'il est innocent soudain, il y aura donc ensuite Alberneau. Et bien, il y a quand même un doute peut-être qui explique donc que Lucien Léger échappe à la condamnation à mort qui, vous le rappeliez, existait encore à l'époque et qu'il soit condamné pour meurtre et non pas pour assassinat. Comme on l'a entendu tout à l'heure, assassinat c'est un meurtre prémédité, donc c'est pour meurtre, à la prison donc à perpétuité, où il va s'avérer être un prisonnier modèle, Jean-Pierre Van Geurt.
Oui, je crois que du jour où il est rentré en prison, il s'est préparé à sa sortie. Il est devenu d'abord cultivé, plus cultivé, il s'est instruit, il a même eu un doctorat en droit, je crois, ce qui a valu à tous les personnes qui ont voulu traiter du cas Léger d'avoir des petits soucis avec la justice en général. Et puis il était devenu en prison un personnage également parce que il avait une certaine reconnaissance et connaissance. Il aidait les autres. Et donc, même à la limite d'être aujourd'hui libéré, mais d'avoir été le plus vieux prisonnier de France, était encore une façon, comme une autre, de faire parler de lui.
Oui, parce que, alors, il a demandé quand même d'abord une révision de son procès, qui a été refusée. Il a trois fois demandé une grâce présidentielle, qui a été refusée. Et puis, il a demandé 13 fois, avant de l'obtenir la 14e fois, une libération conditionnelle à laquelle il avait droit depuis 79. Comment expliquer qu'on lui ait refusé ce qu'on a accepté pour d'autres personnes, dans son cas, condamnées pour meurtre comme lui?
Alors je pense qu'on a refusé pour deux raisons. Une, c'est d'abord parce qu'il n'a pas reconnu son crime. Deux, c'est peut-être pour le protéger malgré lui, parce que le père de Luc Taron avait juré de l'abattre à sa sortie de prison. Effectivement, il y a d'autres cas qui sont aussi, voire pire, quoique, qu'on tue un enfant d'une façon ou d'une autre.
Parce que depuis, il y a eu des meurtriers en série, etc.
Il y a eu des affaires de pédophilie. Henry, notamment, oui. Qui, lui, a été avec la presse, tout aussi manipulateur que Lucien Léger, mais à visage découvert.
Alors, les obstacles, quand même, disparaissent progressivement. Le père de Luc Taron est mort, je crois que c'était il y a quelques années. Sa mère a fini, dit-on, qui est toujours vivante, qui évidemment se souvient, parce que si on se souvient que Lucien Léger a aujourd'hui 68 ans, on oublie peut-être que sa victime aurait 53 ans aujourd'hui, c'est-à-dire à 11 ans, et sa mère, je crois, aurait accepté l'idée d'une libération conditionnelle à trois conditions, qu'il ne se rende pas dans la région parisienne, qu'il soit soumis à un suivi psychiatrique, et puis surtout qu'il s'abstienne de toute intervention publique après sa sortie qui vient donc de se produire cette nuit, un peu après minuit, France Inter, Agnès Bonfillon, dans le 7-9 de Stéphane Paoli, à 7h30 ce matin.
France Inter. Micro, caméra, flash, tout était prêt devant la prison de Douai cette nuit. Lucien Léger est sorti un peu après minuit, caché dans une fourgonnette, et ensuite a accordé une interview exclusive à une chaîne de télévision. Il va être hébergé par l'un de ses amis, et il habitera donc le village de Landa, dans le Nord. Les 2000 habitants de la commune ne sont pas forcément ravis de la nouvelle, comme en témoigne ce reportage de Michel Benoît.
Je suis atterrée. On libère pas quelqu'un qui a tué un enfant.
Quand vous avez un tueur d'enfant qui vient près de chez vous, même s'il l'a fait il y a 40 ans, c'est normal de pas avoir envie de l'avoir, quoi.
Surtout avec tous les récidivistes qu'il y a à ce moment, non.
Il a fait sa peine, hein. Si bien c'est Monsieur Bernard, c'est bien, hein. Monsieur Bernard, c'est un brave type, hein.
Au premier étage de sa maison, l'ancien boulanger de Landa a préparé la chambre de Lucien Léger, à qui il rend visite depuis une vingtaine d'années en prison.
Ça va s'apaiser et les gens vont se rendre compte que l'animal féroce qu'on attendait n'est pas l'homme qu'on rencontre dans la rue.
Et c'était ce matin dans le journal d'Agnès Bonfillon, dans le 7-9 de Stéphane Paoli, un commentaire sur ces commentaires qui ont été enregistrés, qui viennent d'être enregistrés dans la ville où va se retrouver, dans le village où va se retrouver Lucien Léger, Jean-Pierre Van Geert.
Eh bien, je crois que malheureusement pour Lucien Léger, il sort de prison au moment où les récidivistes
on se pose le problème des récidivistes, oui, libérés par anticipation.
Lucien Léger, comme dit une personne, est une mère ou une femme, un tueur d'enfants. Effectivement, c'est quelque chose qui passe toujours
même
mal.
Même si on imagine bien, d'abord, premièrement, il y a droit, on comprend
bien
pas.
Sûr.
Il y a une libération conditionnelle. C'est vrai que des prisons sans qu'un des détenus des lourdes de longues peines puissent être libérés serait vraiment, ils deviendraient des fauves. Donc c'est pas le principe. Mais il y a quand même quelque chose qui est assez choquant tout de même, Jean-Pierre Van Geert, c'est que je rappelais quand même les conditions. Je sais pas comment elles ont été proposées à Lucien Léger, mais notamment il y en avait une, qu'il s'abstienne de toute intervention publique. Il se trouve que à peine sorti de prison et se retrouvant dans cette maison de Landa, il y a une chaîne de télévision qui enregistre et diffuse son interview ce matin. C'est quand même, ça commence curieusement, parce que je suppose que cette interview, il faut parler franchement, a été monnayée.
On peut supposer qu'elle a été monnayée, puisque Lucien Léger, comme pour dans les grands mariages princiers qui sont monnayés également, était complètement caché de tous les autres journalistes n'est apparu que pour un quotidien régional et une télévision.
Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Qu'est-ce que moi je voudrais franchement savoir?
C'est-à-dire que les journaux quelque part ou les journalistes ont un peu oublié la déontologie qui consiste déjà à ne jamais payer pour obtenir une information. Et puis ensuite j'ai bien peur que ça soit la première des déclarations du CNLG. Mmh. Pourquoi pas un livre, pourquoi pas un film, pourquoi pas je pense que comme cet homme est avide de publicité...
Il était déjà, au fond, c'était les seuls mobiles, parce qu'il faut rappeler voilà. Quand même qu'il n'y avait pas d'autres mobiles
non,
que celui-là.
Absolument.
Faire parler de lui...
Donc je pense que la seule chose vraisemblablement qui lui reste, hormis ses fonctions à la Croix-Rouge, de bénévole, ça va être encore qu'on parle de lui. Ça va être évident que pendant des semaines, toute la presse dite d'information va le suivre dans sa nouvelle 205 que lui a acheté.
C'est embêtant parce qu'on peut pas remettre en cause, ça va de soi, la libération conditionnelle, et en même temps c'est vrai que ça s'est produit déjà avec Patrick Henry, le projet d'un livre qu'il avait signé, etc. Oui. Et c'est vraiment incroyable quand même, cette affaire, 41 ans après quand même.
Oui, non, c'est impossible.
Merci Jean-Pierre Van Geert de nous avoir rappelé donc le contexte de cette affaire Lucien Léger, que l'on retrouve aussi dans un guide de la France des faits divers qui a été publié aux éditions numéro 1 et réédité en 2001. Mais il y a beaucoup d'autres affaires, comme celle d'ailleurs dont vous allez vous occuper dans les ateliers de presse. Je crois que c'est une organisation, une maison de presse et d'édition que vous animez et qui va publier bientôt donc des quantités de grandes affaires de ces dernières années. Toutes ces références sont disponibles par téléphone au 32 30, 34 centimes la minute ou sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. Merci à Michel Béziquian, Olivier Riotor, Claire Tesser, Camille Pouche-Gélaguier et Amélie Briand et à notre réalisatrice.